Bonsoir à toutes et à tous. Il est 17h01, pour le coup on a une minute de retard. Nous sommes le mercredi 12 juillet 2023. Vous écoutez toujours Au fil des pages, vous êtes sur Radio Libertaire, et Au fil des pages sur Radio Libertaire, c'est quand même nettement mieux. Et ce sont les vacances, enfin ce sont les vacances pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre. Un tiers des habitants de ce pays ne partent pas en congé payé, pour reprendre la formule de 1936, l'une des grandes revendications de l'époque. Au fil des pages, j'entends maintenir ces émissions au cours de l'été. Nous serons parfois en direct, comme aujourd'hui, et sinon nous rediffuserons des émissions qui vous ont particulièrement intéressé. Frédéric, Francis, et aujourd'hui, eh bien, nos invités seront ceux qui, vivants ou morts, ont combattu et furent victimes du nazisme. N'oublions pas que le 16 juillet 1942 eut lieu la rafle du Veldiv. Et déjà l'année dernière, j'avais eu l'occasion de parler du livre de Laurent Joly sur le thème « La rafle du Veldiv » paru chez Grasset. Et là, nous consacrerons le temps de notre entretien à des ouvrages, à des témoignages de cette période. C'est parti pour une heure et demie d'émission en direct et en podcast par là-dessus. Frédéric, est-ce qu'on peut annoncer la grande manifestation ?
Oui, bien sûr. Une grande manifestation, les rencontres internationales anti-autoritaires qui auront lieu dans le Jura suisse, à Saint-Imier, du 19 au 23 juillet 2023. Donc, je ne sais pas s'il y a des web radios ou quelque chose, vous pourrez vous tenir informé en tapant sur votre moteur de recherche Saint-Imier RIA, rencontre internationale anti-autoritaire, où vous retrouverez tout le programme de cette grande rencontre qui va sans doute rassembler plusieurs milliers de personnes dans cette ville. Voilà, je te repasse le micro, Francis.
Merci. Bon, je suis persuadé, en tout cas la rumeur court, que nous allons croiser l'ombre de Michel Bakounine, l'ombre de Pierre Kropotkin, que Pierre-Joseph Proudhon ne sera pas très loin. Bref, l'histoire est passée par Saint-Imier. Alors, nous, dans notre émission, un livre sur l'évolution de la médecine psychiatrique, une poésie forte, celle de Chrysilidis Réal, notre dossier sur le nazisme, et puis des romans, des livres un petit peu plus originaux, vous verrez ça. Alors, premier temps, pour ouvrir le débat. Comme d'habitude, la médecine psychiatrique est peu mentionnée dans les ouvrages historiques. Philippe Artière, que nous citons souvent dans cette émission, a eu la chance de tomber sur un recueil de correspondances entre médecins sur l'état psychiatrique de leurs patients. Le résultat est étonnant. Alors, écoutez, la question psychiatrique est toujours sensible et peu ou mal étudiée. Et Philippe Artière, un historien dont, comme je le disais, nous suivons régulièrement les travaux, s'intéresse aux patients d'un certain docteur HP. Bon, évidemment, vous avez dîné, c'est un genre de pseudo. En effet, il a eu accès, par hasard, à des lettres adressées à ce psychiatre. Et il répond à des confrères, d'où le titre du livre « Mon cher confrère ». Ça commence toujours comme ça, « Mon cher confrère ». Il lui a envoyé des patients, des gens simples, d'une société provinciale, des invisibles. Alors, je commencerai par citer l'introduction de Philippe Artière. « Mon cher ami, mon cher confrère ». C'est par cette formule que s'ouvre la majorité des lettres rassemblées ici. Mais d'amitié, tout au long de ces missives, il n'est finalement pas vraiment question. Ces correspondances scellent une complicité professionnelle qui lie deux médecins sur le partage d'un secret médical. Chacun de ces courriers est centré sur un ou une patiente Et son auteur, le psychiatre HP, livre en quelques lignes à l'un de ses confrères installés en ville un compte-rendu de sa consultation avec la personne qui lui a été adressée. Genre de diagnostic médical, pourrait-on dire. Les échanges vont se dérouler de 1953 à 1963 et en quelques lignes, il raconte des vies de souffrance. Vous verrez, c'est assez étonnant. Et il peint aussi un tableau de la pratique de la médecine mentale à un moment clé de son histoire en France et révèle enfin une forme d'écriture de la psychiatrie ordinaire. C'est une période charnière. Les asiles du 19e siècle paraissent dépassés, les médicaments l'emportent et nombre de praticiens commencent à travailler autour du patient. C'est le patient. Alors on pratique encore la lobotomie qui, selon ce praticien, peut produire des effets positifs comme négatifs. Ah, je vais vous lire la page 59. Bon, alors il propose différentes solutions. Bon, enfin, si rien n'agit, il faudrait peut-être envisager la lobotomie. C'est assez bien. L'opération n'a aucune gravité en elle-même et parfois les résultats sont merveilleux, parfois absolument nuls. Ah, c'est bon, je serais heureux d'être tenu au courant de l'évolution de cette malade. Bah, dites donc, ça laisse quand même rêveur, et le tout est exprimé avec un détachement certain. Il en est de même pour les électrochocs, et le vocabulaire utilisé par le docteur HP relève davantage de la pensée personnelle, voire du jugement, que du soin objectif. Tenez, page 23. Oh, je vous remercie de m'avoir adressé le jeune T. Ce jeune garçon a un retard considérable, je l'ai testé rapidement. On arrive à un quotient intellectuel oscillant entre 0,60 et 0,70, c'est-à-dire du niveau de la débilité mentale profonde. Ce qu'il y a d'invraisemblable, c'est que la mère ne s'en soit préoccupée que quand l'enfant a atteint 10 ans. Et encore maintenant, elle prend la chose avec une indifférence qui est de l'inconscience. Le pronostic est en effet grave. Une seule chose à faire, placer l'enfant en IMP, excusez-moi, Institut Médico-Pédagogique Approprié. Cela aurait dû être fait depuis bien plus longtemps. Oh, je ne crois pas qu'à cet âge et à ce niveau, on puisse obtenir un bon résultat avec de l'acide glutamique. Néanmoins, comme on ne peut faire autre chose, je le prescris, il faut en tout cas le continuer plusieurs années si on veut obtenir quoi que ce soit. Ah, voyez, hein, il y a du jugement quand même hein, sur le comportement de la mère. Alors, vous avez toute une population qui passe sous nos yeux. Les enfants, vous en avez vu un, femmes, la mère, des personnes âgées, des jeunes, des hommes, on a de tout. Je vous lis encore un passage sur les médicaments. Je crois que le mieux, bon, une gamine qui a 12 ans, je crois que le mieux serait de lui faire une petite cure de sommeil avec le cocktail classique. Barbiturique, Phénergan, Largactyl et peut-être un peu de Réserpine. Je pense que le Dipercol, le Dolosal seront inutiles. À mon avis, il est inutile aussi d'employer la voix parentérale, la petite malade, pour apprendre les comprimés par la bouche. Eh bien, dites donc, c'est un vrai cocktail. Alors, pour ceux qui rencontrent des difficultés, comme moi, à mesurer ce que signifient ces mots, une note en fin d'ouvrage les explicite. T'as assez bien fait. Et autant, bon, le livre est écrit majoritairement par Philippe Artière, avec la collaboration de Nicolas Anken, qui nous livre une réflexion en conclusion. C'est intéressant. C'est depuis un monde à la fois proche et très éloigné du nôtre qu'écrit le docteur HP. Un monde entre deux mondes, confronté au basculement des structures sociales, à la remise en cause de ces institutions, à l'épuisement d'un régime de valeurs et à l'émergence de nouvelles attentes. Sur le terrain où écrit le docteur HP, la psychiatrie, c'est un monde où des discours, des pratiques remontant aux origines de la discipline côtoient les techniques et les représentations empruntant les atours d'une modernité nouvelle, où le diagnostic et la thérapie ont des visages tantôt familiers, tantôt étranges, et entre ces mondes, le docteur HP et ses patients et patientes feraient un passage étroit, fait de percées, de détours, de redites et de nouveautés. Ce passage qui se refermera derrière eux, c'est celui que ces lettres permettent, de façon rare, à leurs lecteurs de parcourir de nouveau aujourd'hui. Eh bien, je vous laisse le soin pour ceux qui sont intéressés. C'est sûr que c'est une thématique un peu pointue, la question psychiatrique. Mais pour ceux qui sont intéressés, j'ai trouvé que pour engager le débat sur l'avenir psychiatrique, sur l'avenir des institutions, etc., eh bien, c'est un livre qui mérite d'être lu. Je rappelle les auteurs, Philippe Artière et Nicolas Anken. Mon cher confrère, c'est le titre. CNRS édition 2023. Et avant, nous allons passer, avant de présenter la grande poétesse Griselidis Réal, nous allons passer une chanson d'Emma Peters, Ben fou, Fred.
C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. Y'a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux. Aimons-nous maintenant, demain j'ai peur qu'on soit trop vieux. Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête. Dedans je te guette, dehors tu m'arrêtes. Mes plus belles amourettes sont celles que je m'invente. Entrée VIP pour ma tête et si ça te tente, ouais. Faut pas croire ce qu'ils racontent. Ils ne me connaissent pas, gros virement sur mon compte. Non, ça leur plaît pas, mais cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire, de nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire, c'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire, de nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire, c'est tout. Je te quitte pour un seul mot. Je t'épouse pour un texto. Je pleure pour un ciel pauvre. Je tiens plus debout, mon salaud, en cavale dans Paris toute la noche. J'ai bu beaucoup trop de litres, je sais pas comment je vais rentrer. Mais si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, je te jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard. Oh, c'est la terre des terres. Je l'ai promis à ma mère. Oh, c'est la terre des terres. Cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout.
Une grande souffrance que celle de Griselidis Réal, une grande poésie aussi. Je ne connaissais pas particulièrement cette poétesse dont les éditions Segers viennent de publier Chair vive, les poésies complètes de cette personne. Mais préalablement, bon, je voudrais mentionner le livre Reine du réel, lettre à Griselidis Réal, et dans lequel la romancière canadienne Nancy Houston rend un hommage vibrant à la poétesse. Peintre, cette femme était poétesse, peintre, prostituée. Et oui, elle était prostituée et elle en parle et elle s'affirme comme telle. En qui Nancy Houston découvre les échos de son parcours de femme et d'artiste. Elle rend hommage à celle qu'elle considère désormais, loin des polémiques, comme une grande artiste. Mieux, une femme dont le parcours public, amorcé dans les pires circonstances imaginables, s'éclaire au fil d'un destin qui évolue vers le beau. Oui, indéniablement, vous allez voir, vous allez écouter certaines poésies, vous allez être fasciné, j'espère. Alors, comme Griselidis, qui voit en esprit ces créatures qu'elle matérialise dans ses peintures, Nancy Houston vit avec de multiples voix qui lui parlent et l'aiguillonnent. Et comme Réal, l'autrice canadienne n'a eu de cesse dans ses romans d'explorer sans pudeur la vérité des rapports humains, du corps et de son vieillissement. Nul besoin d'une exégète, tu t'es toi-même comprise à la perfection, constate ainsi l'épistolière qui ne manque pas de malice pour tacler au passage quelques contemporaines se trompant de combat. Alors, le livre paru aux éditions Nil, Reine du réel, lettre à Griselidis Réal, nous présente un personnage hors du commun. Et là, j'ai découvert, moi, une magnifique poétesse, je l'ai déjà dit, j'insiste. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par ce personnage, par la vie de ce personnage hors du commun, eh bien, le livre de Nancy Houston, aux éditions Nil, Reine du réel, lettre à Griselidis Réal. Mais il y a aussi ce recueil de poèmes, préfacé aussi par Nancy Houston. La vie complexe de Griselidis Réal se traduit dans ses textes d'une intense poésie. Elle connaît la prison, elle écrit pour vivre. Lisant ses poèmes, on est saisi de leur pulsation impérieuse, rapporte Nancy Houston. Je suis d'accord. On comprend que la poésie est devenue pour elle vitale. Elle traduit sa vie. Les titres sont évocateurs. Cantique de l'espoir, incantation, hymne à mes enfants, femme. Vous goûterez l'intensité de fécondation, de requiem pour un amour défunt, de De Profundis. Ah, les titres, c'est pas des titres forcément joyeux. Enfin, il y a le cantique de l'espoir, oui, c'est vrai, mais bon. Et puis en 2002. On lui diagnostique un cancer. Et elle se mobilise pour son combat sur la prostitution. Elle a été prostituée. Elle en connaît les effets. Elle en connaît les situations. On ne juge pas. Elle se mobilise pour son combat sur la prostitution. Et la conscience de la mort, puisqu'elle a son cancer, elle le sait, la conscience de la mort est omniprésente. Et elle écrit probablement ses plus beaux poèmes. Je ne pourrais pas tous vous les citer, mais vous allez voir. Mais il y a Bleu, pas de deux, Prostituée, Mort d'une putain. Elle meurt en 2005. Un petit extrait. Faut-il que, jusqu'au soir, et du soir au matin, je laisse la douleur me tordre tout entière. Et je vais vous lire le dernier, un poème qui s'appelle Obsèques, et qui est inachevé, elle l'a écrit juste avant de mourir. Chantez, oiseau de nuit, aux voix de velours noir, chantez la mort voilée, son regard électrique, sa démarche brisée, chantez le désespoir au gosier hystérique, la lente floraison des chairs décomposées, chantez l'eau du miroir, le souffle s'est enfui en la troublant à peine, chantez l'immaculée, peau de marbre inhumaine, figée d'éternité sous l'or des encensoirs, jetez votre raison aux gorges du silence. Mai 2005. Il y a du Mallarmé, du Baudelaire, du Verlaine. Et dans ce texte, et dans les autres, je ne peux pas les citer tous. Mais j'espère que les poètes maudits se sont retrouvés autour d'elle pour, là-haut ou ailleurs, on ne sait pas, chanter les mots, chanter le son des mots. Je rappelle les titres des deux livres. Nancy Houston, Reine du réel, lettre à Griselidis Réal aux éditions Nil en 2022, et le recueil de poèmes Griselidis Réal, chair vive, aux éditions Segers en 2022. Une autre chanson, Nora Jones, Are You Lonesome? Frédéric.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear.
Cette première demi-heure dans Au fil des pages sur Radio Libertaire par un livre un peu déroutant au titre intéressant, La vie clandestine. Alors, un titre Janus que celui porté par le livre de Monica Sabolo, La vie clandestine. Bah oui, parce que la vie c'est plutôt public et puis elle est clandestine. Bon, alors comme l'indique la quatrième de couve, la vie clandestine, c'est d'abord celle de Monica Sabolo, élevée dans un milieu bourgeois, à l'ombre d'un père, plutôt beau-père, aux activités occultes, disparu sans un mot d'explication. Et c'est aussi celle des membres du groupe terroriste d'extrême gauche, Action Directe, objet d'une enquête romanesque qui va conduire la narratrice à revisiter son propre passé. Fin de citation. Hein, je dis bien, c'est la citation de la quatrième de couve. Je ne vous cache pas qu'à mes yeux, c'est surtout cette enquête sur la découverte de ce groupe et les relations nouées à cette occasion qui retiennent mon attention. La rubrique roman. Bien, ok. L'histoire personnelle côtoie une histoire politique présente ou récente. Bon. En effet, Monica Sabolo était en quête d'un thème pour un projet de livre. Ça, je peux comprendre, les auteurs, on est souvent comme ça. Elle écrit cette réflexion très juste. Il arrive que l'univers nous envoie des signes. Nous pressentons que celui-ci veut nous dire quelque chose, mais le message est brouillé. nous sommes aux aguets, en proie à une culpabilité inquiète, et nous ne comprenons pas l'essentiel. Ce n'est pas l'univers qui s'adresse à nous, mais une part mystérieuse de nous-mêmes qui s'adresse à lui. Il ne nous interpelle pas, il nous répond. Vous lirez ce livre pour comprendre ce passage. Je trouve que cette réflexion est tout à fait pertinente et vraiment est en écho avec le livre. Elle s'intéresse à Action Directe, un univers dont elle ignore tout. Bah oui, son milieu fait que c'est pas trop son truc, c'est pas trop son style. Et son enquête conduit à une conséquence personnelle intéressante. Je ne savais pas encore que les années Action Directe étaient faites de ce qui me constitue, le secret, le silence et l'écho de la violence. Fin de citation. Ignorant tout, elle cherche des sources. Difficile. Ces mêmes sources sont souvent à charge. À son premier contact, les titres de Paris Match, le BFM TV de la presse écrite de l'époque. Et puis, l'extrême gauche était très complexe. Les méandres, les sensibilités, les conflits, les enjeux, tout cela est à découvrir pour Monica Sabolo. Et comment apprécier les faits ? Elle n'en a pas de souvenir. De plus, elle le constate. Le secret est partout. Tout est obscur, sublimé, inventé parfois. Elle va remonter les faits. La constitution de la branche internationaliste, les premiers attentats, la lutte armée. Et c'est plus particulièrement le sort de Joël Aubron, décédé d'un cancer, et de Nathalie Ménigon, qui la sensibilise avec toujours cette question du « pourquoi ces actions ?» Ah, ce n'est pas si loin. Et des souvenirs peuvent ressurgir chez le lecteur. Enfin, moi, je me souviens avoir entendu l'arrestation en 1980, la Cour de sûreté de l'État, l'amnistie en 1981. Ces faits, nous pouvons les retrouver dans d'autres ouvrages, mais il est intéressant de lire comment une jeune femme, en 2022, les appréhende. Elle rencontre Eliette Bess, animatrice de la librairie anarchiste Le Jargon Libre, sur les hauteurs de Ménilmontant. Et un attachement, une relation de respect s'instaure. J'ai beaucoup aimé ces passages où se lie une confiance réciproque, où chacun sait jusqu'où il peut aller. Les souvenirs se croisent, s'embrassent, la psychologie de l'autrice transparaît. Finirait-elle par se détacher de certains de ses préjugés ? Finirait-elle par les comprendre ? Ou même, à certains égards, à leur ressembler ? Je cite. Les rencontres avec certains anciens sont passionnantes et intenses, particulièrement avec Nathalie Ménigon, quelque part dans le sud de la France. Je pourrais aussi mettre en relief la solidarité, la chaleur humaine de ceux qui n'ont pas laissé tomber ces anciens. Un sentiment de douceur, de doute parfois anime certaines pages. Il faut les lire. N'oublions pas que ces personnes souhaitent redevenir des anonymes. Je cite encore Monica Sabolo. Dans cette histoire, j'ai rencontré des individus, détenant chacun leur vérité. Chacun est sincère, sensible, et pourtant leur vérité se percute. Ils racontent des histoires qui s'infirment ou s'annulent. Forcément, quelqu'un se trompe ou quelqu'un ment, mais peut-être pas. À vous de lire pour en juger ou en apprécier. Monica Sabolo, La vie clandestine, aux éditions Gallimard. Nous allons rentrer dans le deuxième temps de notre émission. Rencontre. D'ordinaire, nous recevons des auteurs, des éditeurs, des acteurs de la chaîne du livre. Aujourd'hui, nous accueillons la mémoire de ceux, de celles, qui se sont battus contre le nazisme, sont morts dans les camps. Et je débute cette séquence par la mention d'un disque regroupant des chants, des poèmes écrits par des détenus juifs dans le camp de Theresienstadt, de sinistre mémoire, car ce camp était la vitrine du nazisme qui voulait faire croire à l'Occident et au monde libre que les victimes, leurs victimes, étaient bien traitées et maintenaient leur culture. Oh, certes, elles s'accrochaient à cette culture pour beaucoup, car n'oublions jamais que la culture est dans la nature de l'être humain. Eux, elles, que les nazis voulaient déshumaniser. Pour commencer cette séquence, je voudrais que nous écoutions « Je marche à travers Theresienstadt » d'Ilse Weber, qui est une personne qui a été déportée, une femme qui a été déportée dans ce camp. Ce morceau est extrait d'un disque Deutsche Grammophon que je vous invite vraiment à acquérir. Pour ceux qui veulent retrouver les références du disque, eh bien, il suffit d'aller sur le blog du groupe Commune de Paris et nous mettrons en parallèle des livres, nous mettrons le titre de ce disque. Frédéric, on y va.
Das Herz so schwer wie Blei, bis je mein Weg ein Ende hat, bis je mein Weg ein Ende hat, dort knapp an der Bastei, dort knapp an der Bastei. Dort bleib ich auf der Brücke stehen und schau ins Tal hinaus. Ich möchte so gerne weitergehen, ich möchte so gerne weitergehen, ich möchte so gern nach Haus. Ich möchte so gern nach Haus. Nach Haus, du wunderbares Ort, du machst das Herz mir schwer. Man nahm mir mein Zuhause fort, man nahm mir mein Zuhause fort. Nun hab ich keines mehr, nun hab ich keines mehr. Ich wende mich betrübt und matt, so schwer wird mir dabei. Theresienstadt, wann wohl das Leid ein Ende hat, wann sind wir wieder frei, wann sind wir wieder frei.
Nous sommes autour du 16 juillet. Notre émission a lieu le 12 juillet. En 1942, dans ces jours-là, entre le 12 et le 16, se préparait la grande rafle du Veldiv. J'ai annoncé dans l'émission du 28 juin que nous centrerions cette émission sur cet épouvantable cauchemar. Je voulais apporter une pierre à cet édifice jamais achevé de souvenirs. Et c'est le petit livre d'Alice Mendelssohn, « Une jeunesse sous l'occupation », publié chez Grasset en 2023, donc tout récemment, qui nous sert de clé pour ouvrir la porte de ses souvenirs. Alice Mendelssohn, compte tenu de son âge, n'a pas pu se déplacer, mais je vais faire état de ce livre qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Le livre d'Alice, ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une théorisation des faits, non, c'est un témoignage dans un petit livre, à côté boîte à bijoux, boîte à bijoux en hommage à son père, une souffrance permanente. Je crois qu'il faut vraiment le souligner. Et je reprends un extrait. Je ne lui ai pas dit au revoir. Cette formule m'a toujours frappé. C'est un fil conducteur de ma vie, une attention aiguë qui me rend toujours inquiète de ne pas dire assez bien au revoir. Et si c'était la dernière fois ? Il faut que ce soit bien fait et que le revoir soit un grand moment de présence. Au terme de mon existence, je cite toujours Alice, j'ai 97 ans, bientôt 98, j'aimerais infiniment que ces pages me rendent présente à toutes les personnes qui les liront. Vous verrez, je vous invite vraiment à le lire, très beau texte. Qui est cette famille Mendelssohn ? Des Juifs d'Europe centrale, pauvres, émigrés de Pologne en passant par l'Allemagne, ils s'installent rue Vercingétorix dans le 14e arrondissement de Paris, comme de nombreux migrants à cette époque. Quartier pauvre, qui a bien changé depuis. Puis ils partent pour la rue d'Henri-Raymond au 117 dans le 18e arrondissement. Ils tiennent un salon de coiffure. Monsieur fait les hommes, madame les femmes, et aux grandes dames, et ça marche, aux grandes dames d'un autre coiffeur, un dénommé Jean Pal, ça s'invente pas, Jean Pal, qui saura si bien les dénoncer au commissariat général aux affaires juives que nous retrouverons dans la présentation d'un autre livre. Nous assistons à la vie d'une famille juive, communiste, cultivée, mélomane. La petite fille va à l'école de la République. Des souvenirs d'enfance émaillent les pages du livre qui font écho au livre d'Eugène Dabi dont j'ai déjà parlé dans cette émission « Faubourg de Paris », édité chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire, la première édition de 1933, où on est vraiment dans le Paris populaire des faubourgs de Paris, puisque la rue d'Henri-Raymond, c'est pas très loin de ce qui sera aujourd'hui la Seine-Saint-Denis. En 1939-1940, ils n'ont pas d'argent pour fuir. Et pour aller où ? C'est une question souvent posée. Et là, vous avez la réponse. Pourquoi un certain nombre de personnes, de familles juives ne sont pas parties ? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Et puis pour aller où ? Et c'est le début de la spoliation des juifs. L'ordonnance du 28 avril 1941 est implacable. Il faut un administrateur arien. Bon, ce fut fait. Mais ce fut insuffisant car cet administrateur était plutôt souple, plutôt arrangeant, et ça ne convenait pas au dénommé Jean Pal. Et c'est bien parce que c'est Alice donne le nom du type. C'est pas inventé, c'est pas HP ou XY. Bon, et le père est arrêté le 17 septembre 1941. Elle n'a pas pu lui dire au revoir. Il est transféré à Drancy, puis à Auschwitz, où il meurt du typhus. Le 5 juin 1942, l'étoile jaune est imposée, la rafle s'ensuit, et c'est la fuite. La fuite, là, il fuit. Vous lirez ces pages étonnantes. Et Alice arrive à Saint-Léonard de Noblat. Saint-Léonard de Noblat, j'en profite pour saluer un ami qui nous écoute certainement et qui est de ce petit village. Alors, en fait, la colonie de vacances où elle trouve refuge se trouvait dans une petite ville à 20 km de Limoges, Saint-Léonard de Noblat. C'est là qu'avait eut lieu en juin 1941 le premier parachutage d'armes en provenance d'Angleterre pour la résistance française. Je l'ignorais bien sûr à l'époque, mais ce fut un beau symbole. Par chance, Alice et sa mère, malgré des souffrances, des humiliations, vous savez, quand vous êtes réfugié, quand vous êtes toujours à la merci de n'importe quoi, de n'importe quel, vous êtes seul, eh bien, les souffrances, les humiliations, il y en a. et elles s'en sortiront. Et la reconquête du salon de coiffure au lendemain de la guerre fut particulièrement complexe. Et je vous invite vraiment à lire ces pages, car elles démontrent bien que la société française se préoccupait moyennement des survivants. Vous savez, ça commence à bien faire, on va peut-être parler d'autre chose. Eh bien non, il faut se rappeler. Et Alice put vivre, et elle nous donne cette leçon. Je cite, « Pour bien vieillir, il faut avoir le vice de la joie. » Alice Mendelssohn, aidée dans son écriture et dans l'élaboration du livre par Laurent Joly, le titre « Une jeunesse sous l'occupation » aux éditions Grasset en 2023. Un texte fort, vous verrez, un texte court, mais un texte fort. Est-ce que tous les Allemands étaient nazis? Ah, chacun a en mémoire des témoignages intenses, comme le livre La Rose Blanche, vous savez, qui était paru aux éditions de Minuit sur ce groupe, livre qui a été écrit par Engel Scholl. Je voudrais présenter un autre livre, là, Les enfants Oppermann, paru aux éditions Métellier. C'est une maison d'édition tout à fait intéressante et vous allez comprendre le lien avec le livre précédent. Alors, tout débute dans une ambiance bourgeoise, confortable, cossue. Tout va pour le mieux, monsieur fait du cheval, la bibliothèque est rutilante, la réflexion et le ton léger. Pourtant, il règne dès les premières pages une ambiance sourdement tendue, comme un malaise. Pourquoi ? Ben, certes, nous voyons la couverture, et en couverture, nous voyons des SA, vous savez, les sections d'assaut, les chemises brunes, les sinistres troupes populaires des nazis, le bras tendu devant un défilé de drapeaux à croix gammée. Nous savons la suite de l'histoire, mais les habitants de cette Allemagne en 1930, que croient-ils ? Et surtout, la communauté juive, que croit-elle ? C'est le thème poignant du livre de Feuerwand, « Les enfants Oppermann », publié une première fois en 1933 et réédité cette année par les éditions Métellier. Au travers de la vie d'une famille juive, il nous fait vivre la montée du nazisme et la destruction de la civilisation. C'est un écrivain reconnu dans les années 20, mais critique à l'égard du nazisme. Il se réfugie en France, à Sanary-sur-Mer, en 1933. Hitler le prive de sa nationalité, de ses biens, interdit ses livres. Faut dire que les livres sont particulièrement cruels à l'égard du nazisme. Et pendant la guerre, Feuchtwanger est interné au camp des Mille, près d'Aix-en-Provence, géré, je rappelle, par les autorités françaises. Il s'en évade et se réfugie aux États-Unis. Ce roman relève du documentaire, du reportage, car il souhaite informer le plus vite possible ses lecteurs du vrai visage et des dangers de la domination des nazis. Les valeurs de la civilisation s'effondrent. Vous trouverez des passages qui font écho au célèbre livre de Stefan Zweig, Le monde d'hier. Comment un pays d'une telle culture peut-il laisser place nette à une telle monstruosité ? Une question toujours actuelle. Nous avons lu quantité d'essais sur cette question, sur les faits de cette période, mais les appréhender par des propos, des événements familiaux, la vie quotidienne, constitue une des œuvres les plus percutantes et lucides sur la montée du nazisme. Un très grand roman, ou plus exactement plusieurs livres dans le même. Un roman social, un roman de mœurs, un essai politique, un témoignage historique. L'auteur, au travers d'une famille juive, montre les attitudes, les hésitations, les engagements, jusqu'à l'accomplissement. Un très grand livre, à l'instar de Journal d'un Allemand, vous savez, un livre qui a été écrit en 1939 par Sebastian Hafner. Dans Les enfants Oppermann, l'auteur nous présente l'émergence et l'installation de la communauté juive. faire de l'Allemagne une vraie partie, une vraie patrie pour les Juifs, c'est-à-dire un lieu que l'on aime et que l'on sert. Pourtant, par différentes scènes, le lecteur perçoit les effets de la crise économique, le chômage, les rancœurs des petits artisans allemands face à la réussite de certaines entreprises tenues par les Juifs. Facile d'accuser ces derniers, le rouleau compresseur est en marche, et peu en ont conscience. Écoutez, ce monsieur a du reste exprimé sobrement ce qui couve et menace d'exploser dans nos contrées. Le règne de la raison lucide s'effondre. Le mince vernis de la logique se craquelle. Une époque se profile où l'homme, ce grand animal hypertrophié, va renouer avec sa nature. Tel est le sens du mouvement volkiste. N'êtes-vous pas heureux de vivre cette expérience? Le national-socialisme. Et rapidement, il faudra tout accepter, tout supporter ou disparaître. Je renvoie aussi à un autre livre, « La peste brune » de Daniel Guérin, qui a été publié notamment aux éditions Spartacus et récupéré désormais par les éditions Sileps. Et tout va vite. Et tout était contenu dans le livre d'Adolf Hitler, « Mein Kampf ». Les noms des entreprises juives doivent changer, l'arianisation est en route, le nationalisme pénètre l'enseignement, certains membres de la famille juive, de la communauté juive, pressent leurs amis pour partir en Palestine. Mais vous avez aussi des nazis qui sont au sein des familles. Et la douceur familiale de Hanouka constitue le prélude à la tempête. Elle se heurte au délire des protocoles des sages de Sion. Vous savez, ce trop célèbre brûlot et faux auquel Umberto Eco consacrera un livre intense. Au cours des soirées, beaucoup s'attachent à ne pas voir, à s'illusionner malgré la violence des faits. Je cite, « serein, tranquillisé, confiant, il plaisantait en conjecturant comment finirait ce fureur en bonimenteur de foire ou en agent d'assurance. » Le 30 janvier, le président du Reich nomma l'auteur de Mein Kampf chancelier du Reich. Ne souriez pas lorsque vous avez des mouvements d'extrême droite qui se pressent dans les médias. Alors, la presse est aux ordres, elle est menacée. Alors elle salit les Juifs, c'est très simple, et les terres mordurières deviennent communs. La population va suivre d'ailleurs, les soutiens s'amenuisent, la peur s'instille, les minables deviennent les petits tyrans imbus de pouvoir, et toujours ce dilemme, rester ou fuir. Ne pas voir, et leur hashtag brûle. Tout est mensonge. Cette revendication radicale, fondamentale du mensonge, comme principe politique supérieur, est assurément d'un intérêt capital. L'un des frères, Gustave, le plus dilettante, s'enfuit en Suisse. Il apprend que les Allemands, les nazis, appliquent ce qui était écrit par leurs fourreurs. Les arrestations, les humiliations, les camps, les tortures, dès 1933, tout était écrit. Et il s'interroge. Le monde s'en aperçoit-il? Et que fait-il? Un peu ce que tu as fait, Gustave. Ne pas voir, ne pas croire, regarder ailleurs. Par indifférence, par incrédulité, par lâcheté, un peu de tout cela. Je ne vous raconte pas la fin, mais il mourut en héros. Dans toute l'Allemagne, le siècle du libéralisme et de l'humanitarisme est terminé. Et tout va très vite. Non-sens et mensonge, voilà ce dont usaient les dirigeants du Reich et ce qu'ils encourageaient. Mensonge, leur nationalisme, leur socialisme. Mensonge, leur éthique et leur amour. Mensonge, tout cela. Une seule chose était vraie. Leur haine. Voilà ce qu'écrivait en 1933 Verschwanger, qui fut arrêté par des agents français pendant l'occupation. Lyon Verschwanger, Les enfants Oppermann, aux éditions Métayer, 2023. Eh oui, c'était extrêmement difficile de se battre. Ça montait, ça montait. Les gens n'y croyaient pas. Et puis voilà. Oui, mais est-ce qu'on pouvait résister ? C'était pas facile. Et Anna Segers, militante anti-nazie, rassemble quantité de témoignages et publie notamment la septième croix. Alors pour comprendre, ce livre est précieux. On dit même qu'il fut distribué aux soldats américains pour donner du sens à leur combat. C'est toujours un livre publié aux éditions Métellier, en 2021 celui-là. Et j'aime bien les présenter, les enfants Opperman et puis la septième croix, j'aime bien les présenter en parallèle parce que ça nous permet de mieux comprendre. Alors je ne vous explique pas le sens du titre, il faut lire le livre pour cela. Et nous sommes dans l'Allemagne nazie des années 30. Hitler est au pouvoir, réalise son programme sous les yeux incrédules de l'Occident qui ne bouge pas. Enfin bon, on va pas se rappeler ces sinistres périodes où on a été vraiment en dessous de tout. Les camps de concentration regroupent les opposants et le lecteur peut se remémorer la citation attribuée au pasteur Martin Niemöller. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, j'ai rien dit, j'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démo. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, j'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Et quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. La vie est rude dans ces camps. La violence, les humiliations, les tortures, le lot commun des opposants emprisonnés, condamnés au travail. Et oui, parce qu'il y avait les camps de la mort, mais il y avait aussi les camps de concentration où on faisait travailler les opposants. Et là, c'est très intéressant parce qu'on vit la vie du camp, et puis nous vivons aussi une évasion. Et vous lirez, et un essoufflement vous gagne au fil des pages. Vous fuyez, vous aussi. Et oui, il y a plusieurs personnes qui vont fuir. Alors, je ne vous raconte pas tout. Mais les inquiétudes, la peur, la traque, les chiens, les cris des SS, les miradors, les projecteurs, certains seront repris. Quel courage sous les coups. Car Anna Segers nous dit tout. Et il y en a un, le héros, qui se cache dans une église toute une nuit. Ah, de très beaux passages, d'ailleurs, dans cette nuit dans une église. Et commence un retour sur sa vie, les interrogations, les doutes. C'est un militant. Mais les gens autour du camp, mais ils ont peur, ils se taisent. Il ne faut pas parler. Votre voisin, votre ami peut vous dénoncer. C'est le sort dans toute dictature. Et le texte sent le vécu et le témoignage très précisément restitué. Vous lirez le passage sur la convocation à la police, l'inquiétude grandissante au fil des jours et l'interrogatoire particulièrement perverse. En fait, c'est toute la société allemande qui nous est présentée par petites scénettes. Je reviens sur cette, et j'insiste, sur cette peur qui suinte à chaque page. Et pourtant, la vie, donc l'espoir est aussi présent. Quel courage de s'opposer, vous lirez, vous verrez. La clandestinité était complexe. Les familles sont séparées. Les ruptures idéologiques conduisent à la mort des militants de gauche. Et puis, l'espoir, vous lirez. Un très beau texte, une très belle traduction au service d'une méditation aussi sur l'amitié. Anna Segers, La septième croix, aux éditions Métellier. Je voudrais, en mémoire de ces déportés politiques, Frédéric, que nous passions le chant des soldats du Marais, d'un camp de concentration allemand, d'Ernest Busch. On peut le faire partir ? Parfait.
Die Moorsoldaten, das Lied unserer Kämpfer in den deutschen Konzentrationslagern.
Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind im Ohr Soldaten und ziehen mit dem Spaten ins Ohr. Wir sind im Ohr Soldaten und ziehen mit dem Spaten ins Ohr. Auf und nieder gehen die Posten, keiner, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind im Ohr Soldaten und ziehen mit dem Spaten ins Ohr. Wir sind im Ohr Soldaten und ziehen mit dem Spaten ins Ohr. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor.
Enfin, en France, Alice, dont j'ai présenté le livre au début de cette séquence, a subi les exactions des collabos. Je supporte pas ces gens-là. J'exècre ces gens-là. Et je terminerai par le livre de Laurent Joly sur un triste sire d'Arkel Pellepoix. Rien que pour vous montrer que le combat n'est pas achevé, d'autant que ce monsieur, qui est décédé depuis, n'a rien regretté de sa vie. Un triste sire, ce personnage. C'est un fasciste français. Alors, c'est vrai que je qualifie souvent les collabos de la sorte, triste sire, à l'instar de Bousquet et autres exécutants des ordres de Vichy, mais celui-ci ajoute à cette qualification la médiocrité et la vulgarité. Louis d'Arquier de Pellepoix. Bon, faut quand même se dire qu'il a rajouté le de Pellepoix parce que ce côté noble était assez discutable, on va dire ça comme ça. Antisémite notoire de l'entre-deux-guerres et de l'occupation, il va se réfugier dans l'Espagne franquiste et il est piégé par un journaliste de l'Express en 1978, puisqu'il déverse dans un magnétophone camouflé à dessin des propos démontrant qu'il ne regrette rien et n'a pas changé. Seul point intéressant de cet entretien, il dénonce Bousquet. Assez bien, parce que ça permettra de révéler sous un autre jour cet individu. Je vous renvoie d'ailleurs, et de relancer le procès. Je vous renvoie à un livre qui s'appelle « Le procès Bousquet », préface de Robert Badinter, qui a été publié en 2022 aux éditions Fayard et dont nous avons présenté l'intérêt lors d'une émission d'Au fil des pages. Évidemment, il soutiendra, ce d'Arkel Pellepoix, le négationnisme avant de mourir. L'ancien commissaire général aux questions juives révèle et personnifie la réalité d'un antisémitisme à la française. Criminel sous Vichy, profanateur avec le négationnisme, comme le relève Laurent Joly dans son ouvrage « Le cas d'Arquier de Pellepoix, antisémitisme et fascisme français 1934-1944 » paru chez Talendier en 2023. Donc ce livre est une biographie assez intéressante, mais qui permet de montrer que l'antisémitisme appartient au paysage politique de la Troisième République. C'est vrai, vous lirez les pages, c'est assez étonnant. C'est pas une petite, c'est pas un groupuscule quoi qui tient à ce discours. Non, c'est le paysage politique de la Troisième République. On a des débats, vous verrez des débats où des républicains soi-disant bon teint ont des propos antisémites qui sont un peu qui sont plus que moyens. Et l'activiste antisémite qui est d'Arquette Pellepoix est un personnage marginal, né du nationalisme de la fin du XIXe siècle, qui place la haine du juif, je cite toujours Joly, qui place la haine du juif au centre de son engagement politique ou intellectuel. Il profite de situations de crise pour faire parler de lui et prospérer. Il apparaît comme le témoin, le maillon entre deux époques, de Drummond à Forisson. Forisson, un des pères du négationnisme, Drummond, avec sa célèbre libre parole et son antisémitisme virulent. Ses propos sont assez basiques. Bon, pas un grand intellectualisme chez d'Arquette Pellepoix. L'internationalisme, le complot des juifs inassimilables contre la France. Il y en a trop ? Bon, il n'y en a que 80 000 à cette époque. Eh bien, c'est trop. Ils doivent disparaître, selon lui. Là, on est choqué, vous verrez, on est choqué, enfin vous lirez, par la violence des propos. S'appuyant sur les protocoles des sages de Sion, j'en ai déjà parlé, un faux grossier, l'idéologie de Drummond, le courant catholique du journal La Croix. Ben oui, parce que La Croix, à cette époque-là, n'était pas le journal plutôt progressiste qu'on connaît aujourd'hui. Il ne faudrait pas croire que ces positions à d'Arquette Pellepoix datent de la France de Vichy. Non, elles sont presque banalisées dans les débats au Conseil de Paris où il est élu en 1935. Il défend cette politique et cette agressivité, cet antisémitisme odieux, il le défend en plein Conseil de Paris, et la gauche ne sait pas riposter. Elle est maladroite. L'environnement politique est porteur, avec notamment le soutien de François Coty, vous savez, ce parfumeur qui s'investit en politique, ou encore de l'académicien Paul Bourget. Il s'affiche compagnon de route de l'Action française, de Charles Maurras. Son discours devient clairement fasciste à cette époque. Avant la guerre, il est fasciste. C'est un vrai fasciste français. Et la victoire du Front populaire le rend hystérique. Les attaques contre Blum sont délirantes. Pour lui, Blum est un étranger. Alors, vous connaissez la célèbre phrase où on dit que Blum doit être fusillé d'une balle qu'on lui tire dans le dos. Il préconise un statut d'exception pour les Juifs au Conseil général de la Seine, dès le 4 juin 1936. Eh oui, un statut d'exception. Et son journal, La France enchaînée, peu lu, reçoit le soutien financier de l'Allemagne nazie, eh oui, et il passera son temps à tenter de regrouper les mouvements d'extrême droite. Bon, il est assez superficiel et mythomane, mais la France de Vichy pourrait être son heure de gloire. Remplaçant Xavier Vallat, qui était quand même pas triste dans le genre, il devient en 1942 commissaire général aux questions juives. Bousquet lui laisse exécuter les bases œuvres. Et Laurent Joly nous a présenté déjà l'année dernière, j'ai déjà mentionné, mais je le rementionne parce qu'il est très intéressant, l'ouvrage « La rafle du Veldiv », Paris, juillet 1942, aux éditions Grasset. Il rappelle son rôle dans cette odieuse rafle. Pour le reste, il pérore sur le thème de la race française, la race française, mon Dieu. Il soutient financièrement, grâce à son poste, des revues, des journées, des journaux qui sont assez peu lus d'ailleurs, malgré des plumes comme Céline, Rebattet, Jouandeau. Ah oui, ceux-là, Céline, Rebattet, Jouandeau, bon, là aussi, c'est des grands, on va dire ça, de grands antisémites. Ces projets de loi ne retiennent même pas l'attention du gouvernement de Vichy. Bon, il est vraiment minable, quoi. Et en février 1944, il est viré de toutes ses fonctions. Il se cache misérablement à la Libération et se fait exfiltrer vers l'Espagne, où, comme nous l'avons souligné, sans remords, il décède en 1980. Sans remords, à aucun moment il a fait ce qu'on dit certains. Bon, on ne savait pas qu'il y avait des camps, on ne savait pas qu'ils allaient mourir. Non, sans remords, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Alors, que reste-t-il de ce triste sire? Eh bien, un discours violent, odieux, craché au visage des femmes et des hommes qu'il est, un homme superficiel et mythomane. Reprenons la conclusion de Laurent Joly. Obsédé par la dégénérescence de la race française, Louis Darquier était persuadé que l'identité profonde de la France réside dans sa terre, le sang qui coule dans les veines de ses habitants depuis des siècles et sa religion. Il explique son nationalisme ethnique, son choix de l'antisémitisme comme créneau politique et son ralliement à l'Allemagne nazie. Il croit à ce mythe absurde de l'identité qui résiderait dans cette terre et dans ce sang. Laurent Joly, le cas d'Arquier de Pellepoix, antisémitisme et fascisme français 1934-1944 aux éditions Talendier 2023. Et pour terminer cette séquence, bien, je voudrais passer un certain André Isaac, qui ridiculisait ses collabos sur la BBC. Ce André Isaac s'appelait Pierre Dac et n'était pas très loin de nous, notre ami Pierre Dac. Écoutons les fils de Pétain.
Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de Fauchetons, la brochette de sacrés cochons, de Paul Marion à de Brinon, d'Arnand, Doriot, Laval, Henriot, d'un air éteint, il s'écria soudain. Y a-t-il des salauds parmi nous?
Tous
Prenne tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin, il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain.
Malheureusement, les fils de Pétain ne sont pas tous morts, ou en tout cas, un certain nombre essaieraient de vouloir influencer la vie politique française. Alors, depuis le début de l'émission, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés. Vous retrouverez leurs références, comme à l'ordinaire, sur le blog Groupe Commune de Paris, de la Fédération anarchiste. Et comme tous les livres que nous citons, vous pouvez les commander auprès de Publico, la célèbre librairie de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot, Paris 11e. Vous pourrez aussi retrouver certains commentaires sur notre page Facebook, au fil des pages, et sur la chronique « Des idées et des luttes » sur le site du Monde Libertaire. La prochaine chronique, celle que je vais présenter à la fin de cette semaine, sera consacrée aux lettres des condamnés à mort emprisonnés par le régime nazi, éditées dans la collection Tell chez Gallimard. Je vous invite à lire cette chronique, à lire évidemment ce livre. C'est tout à fait éclairant et on voit le courage fantastique de ces gens qui savent qu'ils vont mourir et qui pourtant ont le courage de se battre, ont le courage jusqu'au dernier moment d'écrire, comme on dit, jusqu'à la porte de la chambre à gaz, ils ont le courage d'écrire. C'est absolument poignant, vous verrez. Troisième, et puis, autre point. N'oubliez pas, si vous voulez nous faire part de commentaires de livres, si vous voulez nous proposer des ouvrages, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire. Émission au fil des pages, à Publico, 145 rue Amelot. Troisième temps de l'émission, un moment d'histoire. Soyons lucides. Les livres se succèdent et se font écho. Et là, je présente un court mais intense ouvrage, Éternelle Espagne. Alors, pourquoi est-ce que je dis que les livres se succèdent et se font écho ? Eh bien, tout simplement parce que, entre le nazisme et l'Espagne franquiste, vous avez tout à fait compris, et le commentaire que nous avons pu faire du livre, je cherche en même temps le livre Éternelle Espagne, du livre consacré à Darquel Pellepoix, c'est clair, hein, c'est un certain nombre se sont retrouvés en Espagne, un certain nombre de collabos se sont retrouvés en Espagne. Là, Éternelle Espagne de Kira Gomez est publié aux éditions Envolez-moi. Ce sont des petits recueils de nouvelles. Et il y a une dédicace, comme je les aime. On sent l'histoire, on sent le passé et on sent qu'on va vers l'avenir. Je cite la dédicace. « À la mémoire de mon grand-père, Celestino Vega, assassiné par les franquistes dans la prison d'Oviedo le 5 décembre 1940. » Aux vaincus de la guerre d'Espagne, à ceux qui combattent pour un monde plus juste, hier comme aujourd'hui. Eh oui, du passé pour aller vers l'avenir. Vous lirez ces pages, les langues se mélangent. Cette petite fille qui est en France, avec sa grand-mère qui est de là-bas, et qui rêve toujours de retourner là-bas. Les langues se mélangent. Est-ce qu'on parle espagnol? Est-ce qu'on parle français? Est-ce qu'on parle les langues régionales de l'Espagne? Est-ce qu'on est à l'intérieur? Est-ce qu'on est à l'extérieur? Cette langue qui vient des Asturies, ah oui, là, c'est la région des Asturies, elle est ancrée dans les âmes, dans les corps, dans les cordes vocales. Et les traditions sont là. La grand-mère constitue la vigie. Tenez, et puis ça me rappelle des souvenirs qui ne sont pas d'Espagne, mais tout ce qui vient de là-bas, on reçoit de là-bas. Et de là-bas, tout est beau, tout est mieux, malgré les souffrances, malgré la rétirade, une forme d'idéal improbable. Mais il faut aussi se tenir à des rochers quand les vagues sont trop fortes. Alors, on reçoit, on ouvre avec empressement le colis venu de là-bas qui apportera chorizo, les grosses fèves, les tourons, et ces odeurs, ces goûts vous transporteront là-bas, là-bas où tout est si beau, meilleur. Et puis, à l'intérieur, les femmes sont très vite vieilles, éternellement en deuil. Elles portent l'uniforme sombre de la tristesse et du renoncement. Donc, il y a comme une madeleine de l'exilé, qu'ils viennent de Corse, de Bretagne, d'Espagne, du Portugal ou d'ailleurs. Et puis comment s'intégrer ? En France ? Et exister là-bas, tu n'es pas d'ici et tu n'es plus de là-bas. Et puis, les fantômes t'appellent. Ils t'appellent parce qu'ils nous disent ne nous oublie pas, ne te détourne pas de nous, redonne-nous la vie qu'on nous a arrachée prématurément, rappelez-vous, tous ces milliers d'hommes et de femmes qui ont été tués au moment de la guerre d'Espagne. Tu les regardes marcher vers toi, portant le regard triste de ceux qu'on a voulu enfouir au plus profond des fosses de l'oubli pour les faire disparaître à tout jamais. Ouvriers, paysans, maîtres d'école assassinés et jetés dans la terre, dans la mer, sans scrupule, sans sépulture, pour avoir rêvé d'un monde meilleur. Et puis maintenant, eh bien maintenant tu es française. Et c'est là tous les conflits de génération. La grand-mère, la petite fille, la jeune fille, avec un grand-père idéalisé, des souvenirs, la guerre, les bombardements, la fuite éperdue vers la France. Tous les livres témoignages de la guerre d'Espagne nous parlent de cette rétirade. Toujours une pensée pour l'absent, le grand-père combattant que l'on s'imagine voir arriver à un matin, mais c'est une lettre qui annonce qu'il a été fusillé par les franquistes, lui qui voulait construire justement ce monde meilleur. Au fil des pages, dans ce petit ouvrage très, très riche, nous croisons Durruti, même Bakounine, Kropotkine. Et en France, une famille espère la mort du dictateur. Oui. 1975. Et les souvenirs hantent les survivants. Et comment réaliser le chemin en sens inverse? Comment retrouver l'Espagne? L'Espagne qui a changé. Et cet homme, et c'est un des derniers textes de ce recueil de nouvelles, et cet homme qui vit dans son passé, Sébastien, et Anna, l'héroïne du livre, avec dans sa main une poudre ocre, un morceau de la terre d'Espagne. Retrouvez-les dans cette série d'interrogations. Et c'est vraiment un petit ouvrage, mais d'une très grande densité. Éternelle Espagne, Kira Gomez, Envolez-moi, édition. Et puis, eh bien, terminons. Terminons par... Allez, on aime bien Paris. Et n'oubliez pas d'ailleurs que ces républicains espagnols anarchistes furent les premiers arrivés place de l'Hôtel de Ville le 24 août 1944 et qu'ils étaient à l'avant-garde de la deuxième DB, eux, la Nueve. Nous serons sur cette même place le 24 août de l'année qui vient, là, de 2023, pour commémorer cette arrivée. On vous attend. Une dernière promenade dans ce Paris donc, que nous aimons tant. Un coin du 5e arrondissement. Alors, au détour des tables du salon L'Autre Livre, qui se tient deux fois par an à Paris, nous découvrons de petites perles. Il en est ainsi des éditions La Bibliothèque, dont Isabelle Louviot, autrice d'un ouvrage consacré à Élisée Reclus, avait évoqué début avril un projet avec cette maison d'édition. Et bien là, nous repartons avec un petit livre intitulé « Du côté du jardin des plantes ». Oh, c'est sympathique, ces petits coins de Paris. Rappelez-vous le livre de Colette, « Paris, je t'aime » aux éditions de Lerne sur le jardin du Palais Royal. Et là, le livre « Du côté du jardin des plantes » de Jacques Damade, illustré par Vincent Duette, nous entraîne derrière des générations d'amoureux, d'enfants ébahis, de monsieur je sais tout, de touristes, de traîne savate parisien, à la découverte de la magie de ce jardin, ses allées, sa gloriette, sa grande galerie, ses occupants, animaux, végétaux, minéraux, pour reprendre les propos du préfacier Georges Cornuau. Léon Polfargue est là, hein, et Léon Polfargue, ce piéton de Paris nous le présente, ce jardin, comme un jardin de rêverie et d'amour. C'est un lieu retiré, vaste et divers, discret, avec ses grandes serres, ses squelettes, sa galerie de la minéralogie, ses fleurs, ses animaux, dans cette ménagerie créée en pleine Révolution française. Savez-vous qu'elle est due à l'initiative de Chaumette, le procureur général sous la Commune de Paris de 1793. Il fait adopter un arrêté requérant que les animaux soient relégués dans le cabinet d'histoire naturelle. Et c'est ainsi qu'un lion marin, un ours blanc, un léopard, une civette, un singe, confisqués aux citoyens à Marchigny, prennent le chemin du Jardin des Plantes, où ils sont accueillis par Geoffroy Saint-Hilaire, il y a même une rue, titulaire de la chaire de zoologie au Jardin national des Plantes. D'autres prendront le même chemin. Ce petit ouvrage nous offre ainsi des découvertes et nous fait remonter dans le temps vers Buffon et son histoire naturelle, Bernardin de Saint-Pierre, dont la statue est cachée au creux d'un chemin du jardin d'Aubenton. Bon. L'origine de la ménagerie se trouve à Versailles. Les animaux de cette même ménagerie sont au plus mal depuis le départ du roi. Même le rhinocéros ne survivra pas. On va tout savoir. Alors on va rassembler les différentes espèces. Geoffroy Saint-Hilaire participe à la campagne d'Égypte avec Bonaparte. Vous découvrirez les aventures avec les Anglais, notamment, et de retour en France, l'affrontement est dur entre lui, d'un côté, Lamarque, méditant à l'entrée du jardin, et l'autre, Cuvier, rejeté auprès de sa fontaine, hors du jardin. Les enjeux scientifiques suscitent de nombreux ouvrages, Buffon, Lamarck, sa théorie de l'évolution, et puis il passe par le Jardin des Plantes, Darwin, Wallace, Humboldt, Bonpland, accompagné en 1826 par une girafe, va remonter le couloir rhodanien. C'est un cadeau du vice-roi d'Égypte à Charles X. Mais oui, plein de petits détails comme ça, très, très chatoyants. Alors, faut-il faire de la science en chambre ou dans le monde? Vaste débat. Les voyages sont précieux parce qu'ils nous permettent d'aller au-delà du cercle urbain, de l'écran, et même de l'organisation capitaliste du monde qui ne voit que l'homme et son intérêt et qui détruit sans compter les espèces vivantes, je cite l'auteur. Il faut investir une vision naturelle globale, d'où l'actualité de ce coin du 5e arrondissement. Bien plus, le chemin qu'il nous propose semble le plus frayable en ce début du XXIe siècle. Et le jardin-muséum, outre sa participation depuis des siècles à la découverte du monde, permet de relier le bipède à la terre. Tiens, Élysée reclus n'est pas loin. C'est là l'éthique de l'ouverture qui permet à l'homme de vivre dans le monde et de ne pas le détruire. Et cette éthique se crée à son contact, produite par lui. Oui, allez-vous promener, là, si vous restez sur Paris, allez-vous promener au jardin des Plantes. Il y a beaucoup de charme, c'est vraiment très agréable. Jacques Damade, du côté du Jardin des Plantes, édition La Bibliothèque, en 2023. Eh bien, voilà, chers amis, désolé pour la voix peut-être un peu monocorde, puisque nombre de nos animatrices sont déjà occupées par ailleurs. Heureusement, Fred et moi, nous tenons l'appareil. Alors, n'oubliez pas, c'est vraiment les derniers jours, là, n'oubliez pas l'exposition imprimée à la BNF jusqu'au 16 juillet au site François Mitterrand. Découvrez l'exposition Pierre Dac au musée du judaïsme à Paris jusqu'à la fin août, je crois. Donc ça, vous devriez y aller. Et puis, venez découvrir la grande exposition Anthony Campagna, icône cachée, les images méconnues de la guerre d'Espagne 1936-1939. J'avais parlé du livre consacré aux photos d'Anthony Campana qui s'appelait la boîte rouge et qui contenait des photos de la guerre d'Espagne, c'est clair, qui a été édité au Seuil. Et là, la ville de Montpellier organise du 29 juin au 24 septembre au pavillon populaire une grande exposition sur justement ce photographe, et c'est vraiment très bien. Et oui, il n'y a pas de bon bec qu'à Paris, il y a des choses passionnantes dans d'autres villes de France, et je vous rappelle aussi l'exposition Barvalo au Mucem à Marseille. C'est terminé pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Rendez-vous le mercredi 26 juillet 2023 pour un festival de chansons. Et oui, on peut lire et on peut aussi chanter afin de présenter un recueil de chants révolutionnaires. Vous apercevrez que vous en connaissez la plupart. D'ici là, bonne lecture. Et l'équipe de Fil des Pages vous souhaite ni Dieu ni maître, mais parce qu'il y a tout de même un air de vacances dans l'atmosphère. Allez, on va aller faire un tour au bord de mer, et on va particulièrement à Saint-Marc-sur-Mer avec le merveilleux Jacques Tati et les vacances de Monsieur Hulot. À bientôt et au plaisir de partager.
Out of Jesse's path. Come a cow, cow, yicky, come a cow, cow, yicky, yicky, yicky.